Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nour, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout.
Bonjour et bienvenue dans Projet Libre. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Ça va être un épisode en deux parties. Et on va parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 12 ans de ma vie et sur lequel j'ai appris, en gros, à peu près tout ce que je sais au niveau du logiciel libre. Donc, ce projet s'appelle GLPI et il a 20 ans cette année. Et donc, pour ces 20 ans, en fait, c'était un projet qui me tenait à cœur. Je voulais trouver un moyen de pouvoir faire un petit peu un retour dessus et parler un petit peu de ce que c'est GLPI, un peu ses spécificités et montrer aussi un petit peu ce que c'est que le développement d'un logiciel sur le temps long. Et pour ce faire, je suis pas tout seul. Je suis entouré de deux des mainteneurs historiques et bénévoles du projet, Julien Dombre et Jean-Mathieu Doléan, et aussi d'Alexandre Delaunay, qui a été pendant de nombreuses années mon collègue chez TechLib. Voilà, donc merci à tous d'être là. Pour commencer, je vais vous demander à tous les trois de vous présenter. Julien, c'est à toi la parole.
Je suis Julien Dombre, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants. Je suis informaticien, et on fait un peu tous les métiers dans l'informatique. Et j'ai une carrière exclusivement dans la fonction publique, dans différentes structures, et spécifiquement dans le domaine de l'éducation.
D'accord. Jean-Mathieu ?
Donc, Jean-Mathieu Doléan, moi je vais taire mon âge parce que je suis le plus vieux de l'équipe, donc je vais pas me tirer une balle dans le pied en exposant mes décennies d'activité. Comme Julien, un des cofondateurs du projet GLPI, et puis j'ai été le président pendant de nombreuses années de l'association ADEPNET qui a porté ce projet. À titre personnel, j'évolue dans le numérique et à titre professionnel également depuis très longtemps, peut-être trop d'ailleurs. Et j'ai une certaine passion et surtout même une conviction chevillée au corps pour les logiciels libres et le partage de la connaissance depuis de nombreuses années. Voilà. Et dans le cadre professionnel, j'ai exercé pas mal de métiers, un peu dans le privé, mais aussi beaucoup dans la fonction publique, qu'elle soit d'État et dans les collectivités territoriales.
Super. Alexandre ?
Moi, c'est Alexandre Delaunay. J'ai donc 40 ans. Je suis l'actuel mainteneur donc, du projet GLPI et je travaille depuis un certain moment chez TechLib. Précédemment, j'avais donc une carrière de développeur web dans différentes sociétés, mais j'ai découvert le logiciel libre chez TechLib et le logiciel GLPI dans le même temps. C'est moi qui m'occupe maintenant de ce logiciel.
Moi, je vais me présenter aussi. Donc, moi, j'ai travaillé sur GLPI depuis 2006 jusqu'en 2018. On va y venir après. J'ai été un des développeurs et un des mainteneurs aussi de GLPI. Maintenant que les présentations sont faites, l'idée, c'est de présenter GLPI très succinctement pour que les auditrices et les auditeurs sachent un petit peu de quoi on parle. Alexandre, est-ce que tu peux, en quelques phrases, présenter le projet GLPI ?
Oui, alors donc le GLPI est donc un logiciel libre. Son nom est un acronyme qui veut dire donc gestionnaire libre de parc informatique. Il a donc plusieurs casquettes qui sont d'une part l'inventaire de matériel informatique et d'autre part la gestion du helpdesk, enfin un système de ticketing qui permet donc de faire de l'assistance aux utilisateurs au son sein. Et s'ajoute à ça tout un ensemble de fonctionnalités supplémentaires telles que de la gestion de projet et divers outils qui vont se greffer sur l'une ou l'autre des deux parties principales pour amener donc à ce qu'on appelle un outil, un ITSM en fait, donc qui permet donc de faire de la gestion d'un service informatique dans son ensemble.
Julien et Jean-Mathieu, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la naissance de GLPI ?
On va faire un peu d'archéologie. En fait, c'est l'histoire en fait d'une rencontre surtout, un peu fortuite d'ailleurs, plus qu'une histoire technique. J'étais donc le président de l'association ADEPNET, qu'on avait fondé avec à l'époque avec Basile Lebeau et puis d'autres amis. Et c'était une association qui œuvrait dans la promotion, le développement des logiciels libres, mais surtout autour des acteurs associatifs qui étaient un peu éloignés de ces concepts-là, et particulièrement sur à l'époque quelque chose qu'on appréciait beaucoup, qui était les systèmes de gestion de contenu. C'était assez nouveau à l'époque, et pour les acteurs associatifs, c'était un moyen technique de pouvoir avoir une présence sur le web, de s'exprimer facilement, sans connaissance technique préalable. À l'époque, on faisait pas mal de promotion, de formation, d'installation et déploiement d'un système de gestion de contenu assez célèbre qui s'appelait SPIP, enfin qui s'appelle d'ailleurs toujours SPIP, qui existe toujours. Et en fait, Basile, lors de ses activités, a travaillé pour une structure qui avait besoin d'un outil de gestion d'actifs informatiques. Et donc, il avait fait un peu le tour des logiciels libres qui existaient. Il avait rien trouvé de très probant, excepté un bout de code autour d'un projet qui s'appelait Irma, qui était un projet qui n'était plus maintenu. Son créateur original avait plus souhaité donner suite à sa production. Et lorsque Basile a travaillé sur ce code et les fonctionnalités, il m'avait demandé un coup de main sur les interfaces, etc. Et en fait, tout simplement, on s'est pris un peu de passion pour ce petit projet initial, et on a surtout senti et pressenti qu'il y avait quelque chose à faire autour de cela, parce que en faisant un petit peu le tour de ce qui existait à l'époque, et notamment des logiciels propriétaires, on s'est rendu compte que les logiciels de gestion de parc étaient vendus à prix d'or à l'époque. Avec des coûts extrêmement importants et voire prohibitifs pour des acteurs associatifs ou des acheteurs publics d'ailleurs, tout simplement. Et donc beaucoup ne pratiquaient pas de la gestion de parc de manière informatisée et se contentaient de tableurs et autres qui étaient un peu des outils un peu préhistoriques. Et donc on s'est dit qu'il y avait un besoin auquel pouvait répondre ce projet. Donc on l'a repackagé, corrigé, interfacé, documenté, etc. Et c'est ainsi que en 2003 est sortie la première version stable de GLPI, qui était la version 0.2. Voilà. C'est comme ça qu'est né le projet.
En fait, en gros, ce projet, avant qu'il s'appelait Irma, il a été renommé en GLPI. Donc c'est vous qui avez choisi le nom de GLPI, en fait.
Oui, comme on l'avait repackagé complètement, modifié, traduit, refait l'interface, refactorisé le code, etc., etc. Enfin, on avait fait une refonte complète. C'est surtout basé sur les fonctionnalités. On avait décidé de lui donner un nouveau nom, une nouvelle identité, et d'en faire la promotion auprès des utilisateurs qui pouvaient en avoir le besoin.
Et donc là, en 2003, quand vous sortez, donc déjà, vous le mettez sous licence GPL. J'aimerais bien savoir un petit peu pourquoi. Et puis quand vous le sortez, où est-ce que le code, vous le mettez à disposition? Il y a quoi en 2003 pour mettre, comme forge logicielle, pour mettre à disposition le code?
Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. c'est pas vrai. En fait, initialement, il n'y avait rien, tout au moins, à notre connaissance, parce que encore une fois, c'est un projet qui est né d'une rencontre fortuite. C'est un projet humain avant tout, avant d'être un projet technique. Et donc, on a aussi appris en construisant. Voilà. Initialement, pour diffuser le logiciel, on a mis en place un site web sur un SPIP d'ailleurs. On a packagé, on a fait une archive, on a fait une documentation. Et à l'époque, alors, il n'y avait pas pléthore de forges. On s'y est attelé que bien plus tard. Pendant un an ou deux, on a travaillé sans les outils qu'aujourd'hui tout le monde connaît et avec lesquels personne n'envisagerait de faire de développement s'il n'était pas présent, comme des plateformes, comme de dépôts, comme GitHub.
Et pourquoi la GPL alors? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette licence?
Alors d'abord parce que le code initial était sous licence GPL, donc de toute façon il y avait une obligation juridique. Mais même si ça n'avait pas été le cas ou si on avait redéveloppé intégralement, de toute façon tout ce qu'on a conçu, créé au sein de l'association, a toujours été sous licence libre, que ça soit les docs ou le code. Il y avait une volonté de partage, de diffusion, de distribution et de permettre aux gens de s'approprier les choses. En fait, quand on a initialement diffusé GLPI, on n'envisageait pas de le maintenir par la suite. En fait, on s'est dit, voilà, on a fait un truc sympa, ça peut servir à d'autres, et puis d'autres s'en saisiront certainement.
D'accord. Et toi, Julien, toi, tu es arrivé quand et comment, en fait, sur le projet GLPI ?
Moi, je suis arrivé en 2004, au vu de l'historique des commits sur le projet, et de manière très intéressée au départ, très clairement. J'étais à l'époque ingénieur dans un laboratoire de recherche, quoi, gestionnaire de parc informatique, et cherchais un outil. Et de mes recherches, au final, le seul outil libre à disposition, c'était GLPI. Donc au final, je l'ai testé, ça me convenait et ça répondait à une grande partie de mes besoins. J'avais des problèmes avec cet outil, en particulier sur la partie authentification, que ça s'intégrait pas correctement au système d'information du laboratoire. Donc j'ai commencé à proposer des patchs. Et malheureusement ou heureusement, dans le sens où on le voit, voilà, j'ai commencé à mettre un pied dedans et après j'ai sauté dedans. Et donc après, j'ai de mémoire rencontré, en 2004 aussi, à Solution Linux, Basile et Jean-Mathieu. Et là, j'étais perdu pour la cause, je crois.
Enfin, la forme juridique qui portait le projet GLPI, en fait, elle était là avant le projet, quoi.
Tout à fait. Elle était antérieure à GLPI. L'association ADEPNET existait avant.
D'accord, ok. Et elle continue à exister ?
Non, elle a été dissoute il y a quelques années maintenant.
Au tout départ, Julien, toi, c'était intéressé. Et Jean-Mathieu, toi, t'avais un... quand ça a commencé, t'avais pas un intérêt... Enfin, est-ce que t'avais un intérêt professionnel ? Je veux dire, est-ce qu'à un moment, tu l'as utilisé professionnellement au début, quand t'as commencé à contribuer ? Ou est-ce que c'est juste, comme tu dis, parce que tu t'es pris un peu... t'es tombé un peu amoureux du projet et que t'as continué comme ça ?
Il n'y avait aucun lien avec les métiers que j'exerçais à l'époque et aucun intérêt professionnel dans le projet GLPI. Moi, il n'y avait aucun lien avec mes activités pro. Hein. C'était plutôt un défi ou un challenge idéologique, intellectuel, humain qui m'intéressait.
On est en 2003, vous mettez le code source sur Internet. Est-ce qu'il y a des gens qui montrent de l'intérêt ? Comment ça se passe en fait ? Vous aviez une mailing list ?
On avait mis le code sous la forme d'une archive à disposition, la doc, etc. Et puis après, on avait mis une mailing list en place. Et puis, très vite, on a été contacté par des utilisateurs qui téléchargeaient, qui avaient des questions, qui avaient des suggestions d'amélioration, des propositions, etc. En fait, ce qu'on espérait initialement, enfin, ce qu'on avait envisagé initialement, à savoir voilà, de mettre à disposition et puis après que d'autres s'en saisissent, en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est plutôt que très rapidement, ça a eu un petit succès, somme toute modeste, mais quand même présent. Et ça a circulé assez vite après, par effet de bouche à oreille, plus qu'autre chose, puisque nous, on n'avait pas de moyens marketing pour aller faire la promo du projet. Mais il y avait eu un effet un petit peu boule de neige. Et donc, en fait, on s'est pris le doigt dans l'engrenage. Et puis, devant l'enthousiasme, on a répondu aux questions. On a apporté des corrections, on a commencé à sortir des versions supplémentaires alors que c'est pas vraiment ce qu'on avait envisagé. Comme Julien, on s'est fait un peu happer par à la fois le succès, le challenge et puis le côté sympa du projet et puis la naissance d'une communauté qui avait de fortes attentes et puis c'était assez encourageant, motivant et gratifiant voilà de construire collectivement quelque chose et ça œuvre pour l'intérêt général.
Donc au départ, la communauté, elle est majoritairement francophone ?
C'était exclusivement franco. C'est que quelques années plus tard que on a eu des contacts avec des anglophones ou des bilingues qui nous ont dit « mais moi, ça intéresserait ma boîte, etc. Ça intéresserait ma structure, ça intéresserait mon entité. » Et donc, certains ont commencé à proposer des débuts de traduction. C'est comme ça qu'en fait... GLPI a commencé à s'internationaliser. C'est pas un projet qui avait été pensé initialement pour l'international, mais encore une fois, à l'inverse de beaucoup d'autres projets qui sont avant tout des projets dont l'entrée est technique, avec un développeur qui est déjà au fait de tout ce qui existe comme support de communication, de développement communautaire, etc. Bon, je répète qu'à l'époque, il y avait quasiment rien. et qui se dit tout de suite, bah voilà, je vais construire mon code de telle manière, mon projet de telle façon, je vise tout de suite l'international, je vais déjà développer immédiatement en anglais pour que, voilà, c'était pas l'entrée, voilà. Alors après, on a fait les efforts nécessaires pour répondre aux sollicitations, mais l'internationalisation est venue d'abord sur les aspects traduction, puisqu'on a eu pas mal de contributions rapidement pour les traductions des dictionnaires de langue.
Moi, je suis arrivé sur le projet en 2006, et au moment où je suis arrivé, on parlait de GLPI, mais on parlait surtout de OCS et GLPI. Et en fait, ce que j'aurais bien aimé que vous nous expliquiez, peut-être Julien, c'est votre rencontre avec l'équipe OCS. Comment ça s'est fait et comment vous avez commencé à travailler ensemble à l'époque ? Et expliquer un petit peu ce qu'était OCS.
Les rencontres avec OCS, initialement, j'avoue que je ne me souviens plus vraiment comment ça s'est fait et comment sont faites les premières accroches. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jean-Mathieu.
C'était la gendarmerie.
La gendarmerie, oui.
Mais initialement, je crois que tu n'étais pas dans la boucle, Julien, sur la toute première rencontre. Je ne sais plus, je ne me souviens plus, mais je sais qu'on avait été... invité par l'équipe d'OCS, donc qui travaillait à la gendarmerie, en région parisienne, pour qu'ils nous parlent de leur projet, qu'ils nous présentent. Ils souhaitaient créer des ponts entre leur solution OCS et GLPI.
Donc on va juste rappeler que OCS, en fait, c'est un autre logiciel libre français, dont le but est de créer un système d'inventaire automatisé. Pas de gestion de parc, mais d'inventaire automatisé. En tout cas, à l'époque, c'était ça.
Oui, tout à fait. Oui. Et on avait rencontré l'équipe très sympathique des développeurs d'OCS. Ils étaient trois à l'époque. Et on avait tout de suite et sympathisé et eu envie de collaborer pour permettre à notre communauté d'utilisateurs d'avoir un outil d'inventaire automatisé. Ça nous semblait extrêmement intéressant comme complément. Pour l'équipe d'OCS à l'époque, ça voulait dire aussi qu'ils avaient surtout à se focaliser sur le moteur d'inventaire et pas sur toute la question de la gestion, des interfaces, etc. Ça leur permettait de se concentrer sur les parties techniques. Il y avait déjà fort à faire sur la question de l'inventaire et des agents d'inventaire.
Je me souviens, on les a rencontrés au moment où ils avaient déjà une interface. En fait, ils avaient une interface graphique pour piloter leurs agents et ils se posaient la question d'aller plus loin dans leur interface.
C'est ça, oui. Oui, c'est ça.
Et le lien avec GLPI a fait que ils s'y sont pas lancés parce que GLPI répondait à ce besoin-là.
Pendant des années, en fait, ce qui a fait entre autres le succès de GLPI, c'était OCS plus GLPI finalement. C'est ces deux logiciels qui étaient un peu un espèce de couple, je vais pas dire inséparable, mais qui finalement a fait qu'il y avait une solution libre et open source qui était concurrente à des outils propriétaires. C'est bien ça.
Oui et non. Enfin, je vais nuancer un petit peu. C'est GLPI fonctionnait très bien sans OCS et avait une communauté d'utilisateurs importante. Mais on va dire que l'arrivée du duo OCS-GLPI, ça a été un booster, notamment pour les grandes structures. Parce que la question des agents, en fait, elle se posait surtout pour les gens qui avaient les structures qui avaient des parcs importants. Toutes les petites structures, jusqu'à, je vais dire n'importe quoi, mais une centaine de PC à gérer, ça leur posait pas de problème de faire des imports CSV, de bons de livraison et autres pour avoir leur inventaire ou de le gérer même à la main. Ce qui posait problème, c'était qu'on atteignait des parcs importants et ça a servi effectivement de booster pour l'adoption de la solution OCS-GLPI, solution globale de gestion de parcs, puisque là, on avait... un ensemble complet et qui rivalisait du coup beaucoup plus facilement avec les solutions propriétaires qu'on trouvait sur le marché.
Je voudrais qu'on parle des premiers contributeurs externes, c'est-à-dire pas Jean-Mathieu. Moi, quand je suis arrivé, Julien et Jean-Mathieu, vous étiez là déjà tous les deux, vous étiez déjà bien établis et vous aviez le truc bien en main. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment sont arrivés les autres contributeurs, qui sont les gens qui sont restés des années à travailler sur le projet?
Qui ne s'en souviendrait pas. Alors après Julien, qui était un contributeur principal et qui est devenu membre très rapide et du fait de sa très grande compétence et puis de la sympathie qui nous liait, il a intégré très très vite l'équipe principale de développeurs. Après, en fait, ça a été des rencontres. Il y a eu le travail de collaboration avec la CNAM, qui avait un gros projet de gestion de parc et donc qui s'intéressait beaucoup à GLPI, mais qui avait des besoins non couverts par la solution et qui souhaitaient voir comment elle pouvait s'inscrire dans une démarche positive et constructive de collaboration et de contribution autour du projet. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré notre serviteur Walid ce soir, qui à l'époque, qui travaillait pour une SS2I auprès de la CNAM, ainsi que son collègue Gonéry. Le fait de travailler ensemble sur les questions de développement et d'intégration des contributions dans un projet communautaire déjà existant, avec des lignes qui étaient déjà à l'époque relativement structurées, et des lignes directrices assez fortes auxquelles on dérogeait peu, mais qui nous a permis de tenir le cap et d'être cohérent avec nos utilisateurs et puis et avec notre philosophie, ben ça a bien matché, on va dire aussi avec Walid, qui a eu une phase de rodage un peu spécifique parce que ben, quand on vient d'une SS2I, c'est pas forcément non plus très simple d'établir les ponts avec une structure de développement communautaire, surtout quand vous avez un client derrière qui a des exigences aussi. De délai, de production, de genre de choses. Donc il faut comprendre comment on s'inscrit dans ça. Walid, tu l'as compris assez rapidement et facilement, mais en plus tu as dû travailler sur une question d'interface ou de médiation, on va dire, entre la communauté d'un logiciel libre et puis les besoins d'un client qui était somme toute assez gros quand même.
J'y reviendrai après, parce que je voudrais justement donner un peu le mon arrivée sur le projet, parce que je pense que c'est assez typique de l'ouverture d'une communauté qui accueille les nouveaux contributeurs. Je suis arrivé avant, par exemple, Xavier Caillot.
Xavier, il va m'en vouloir, parce que il est arrivé avant toi, effectivement. Il était surtout au départ contributeur sur des remontées de bugs, pas développeur à l'époque, c'était surtout utilisateur. Donc remontée de bugs, relecture de doc, donc il a effectivement pas mal contribué, mais sur des objets moins techniques. Donc c'est pour ça que là je m'étais focalisé sur les aspects contribution en dev. Mais oui, Xavier a fait beaucoup de bêta tests, etc. Il est devenu aussi très vite helper aussi sur le forum communautaire très rapidement. Et puis par la suite est devenu développeur et développeur contributeur sur des plugins, des greffons pour GLPI.
Ensuite, il y a trois personnes assez importantes qui sont arrivées par la suite. Donc, Romy, Collet et Nelly Lasson sont arrivés à travers l'assurance maladie parce qu'ils travaillaient là-bas et se sont mis à contribuer eux-mêmes, ce qui est quand même assez intéressant qu'un client se mette finalement de lui-même à contribuer.
Tout à fait.
Julien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'arrivée de ces différents contributeurs ?
C'est les contributeurs qui ont permis déjà d'asseoir la notoriété un peu de GLPI de par la communauté qui grandissait et surtout de donner la capacité au projet d'avancer plus vite. Et en particulier, la collaboration avec la CNAM a permis vraiment d'arriver à avoir un produit qui gagnait en assise technique pour des grands groupes. L'assurance maladie, à l'époque, de mémoire, le référencement qu'ils avaient était plus de 100 000 postes gérés. Voilà, c'était énorme par rapport à ce que nous, on envisageait même au départ du projet. On était content quand on avait un utilisateur qui utilisait GLPI pour gérer ses 200 postes, quoi. Eux, ils sont arrivés, plus de 100 000 postes, avec mécaniquement les besoins et d'optimisation qui étaient nécessaires pour gérer ce volume-là. Et donc, mécaniquement, ça a fait avancer énormément GLPI sur tous les aspects techniques.
Je peux expliquer un peu, vu de mon point de vue. Un jour, mon chef vient me voir, moi et mon collègue Gonéry Le Boudeur, et il nous dit donc on travaille chez Atos, grosse entreprise. On était dans le centre open source. Et un jour, notre chef vient nous voir et nous dit si ça vous intéresse, il y a une mission. On a un contrat cadre avec l'assurance maladie. Vous pouvez aller faire de la gestion de parc et de l'inventaire automatisé. Bon, il n'y connaissait rien, il ne savait même pas ce que c'était. On arrive là, on regarde les projets. Gonéry savait faire du Perl, donc il va chez OCS. Moi, je faisais du PHP et du LDAP. Je me suis dit ok, j'ai le pays. Et là, en fait, les premières contributions, déjà, c'est aller sur IRC, commencer à se présenter un petit peu, faire deux, trois petites contribs, envoyer quelques patchs, etc. Arriver vraiment discrètement et humblement, quoi, parce que, en fait, on connaît personne. Vu de ma fenêtre, ça s'est bien passé au départ. À un moment, il a fallu aller plus loin. Et là, nous, on a organisé une rencontre physique, justement, pour pouvoir se rencontrer, parce qu'on allait être amené à travailler pas mal ensemble, finalement. Comment vous avez vu ça, Julien, par exemple ? Comment vous avez vu ça quand justement on a l'assurance maladie arrivée avec ses gros sabots pour venir travailler sur GLPI ?
L'arrivée de l'assurance maladie dans le projet, pour moi, c'était l'arrivée la plus facile parce qu'elle a été faite, comme tu l'as dit, humblement. Par rapport à toi qui est arrivé humblement, On a eu d'autres arrivées de contributeurs qui sont arrivés avec leurs grands sabots. Mais de mémoire, l'arrivée de l'ACNAM par toi et après par Romy et par Nelly, ça s'est toujours très bien passé. On a toujours pu échanger calmement. On pouvait avoir des points de vue divergents, mais on était toujours, ça se passait toujours très bien dans les discussions. Et,
Walid faisait référence à une fameuse rencontre quand même avec quelques chefs à plumes à l'époque de la. Voilà, je pense que c'est plutôt cet aspect-là. Effectivement, avec les contributeurs, on a extrêmement bien travaillé, et tu as raison, Julien, de le souligner. Il y a eu le besoin de clarifier un petit peu les questions d'attente, d'objectifs et de posture et de stratégie. Et moi, je me souviens d'une réunion un petit peu particulière où on a rencontré des chefs à plumes de la CNAMTS, qui nous avait abordé un petit peu de haut quand même à l'époque, et puis en insistant assez lourdement sur, je me souviens très bien de la question, c'est est-ce que vous êtes content qu'on utilise votre projet ? Et je me souviens avoir un peu choqué à l'époque en disant non, je m'en fous, que vous utilisiez le projet ou pas, je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est est-ce que vous allez être contributeur ou pas. C'est la raison de ma présence à cette réunion, enfin de notre présence à cette réunion à l'époque, c'était de dire on est venu vous voir parce que vous nous aviez dit que vous vouliez utiliser le GLPI, tant mieux, mais surtout vous vouliez contribuer. Donc c'est ça qui nous intéressait, et qu'on soit bien dans une logique gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on accepte éventuellement de travailler ou d'adapter la roadmap en répondant à des besoins, peut-être plus rapidement, à des besoins immédiats pour la CNAM, même si c'était inscrit dans la roadmap GLPI, mais on pouvait la modifier, l'adapter, être facilitateur, et puis intégrer peut-être plus facilement et rapidement des contributions pour pouvoir répondre aussi à des calendriers propres au projet de la structure. On était prêt à le faire, mais si on était dans un échange gagnant-gagnant, et donc qu'il y avait des retours sous forme de contributions au projet. Voilà. Et c'est vrai que, naturellement, en fait, on nous avait abordé comme si on était un éditeur de logiciels propriétaires, et qu'effectivement, on était content, on allait sabrer le champagne parce qu'on avait remporté un contrat avec une grosse entité publique, sauf que c'était pas le cas, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'espèce sonnante et trébuchante. Mais ce qui nous intéressait, c'était les contributions qu'allait pouvoir apporter la CNAM via ses contributeurs, via son prestataire. Une fois dit tout ça, ce sont les contributeurs entre eux qui se sont parlé, les développeurs entre eux, et on a pu avancer de la manière la plus intelligente et la plus constructive et productive possible pour le bien du projet. Ce qui a permis à GLPI de grossir très vite sur les questions de gestion des grosses structures, les questions de performance dont parlait Julien, qui a passé des nuits et des nuits à régler ces problématiques de performance de l'application sur des très gros parcs, et puis aussi une professionnalisation aussi plus intensive de GLPI, notamment grâce aux contributions de Romy et de Nelly sur les questions ITIL aussi, qui ont été force de proposition et très fortement contributeurs sur les questions d'intégration ITIL. C'est une contribution qui a été extrêmement fructueuse pendant plusieurs années.
Ah, je vais juste rappeler pour les auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas que ITIL, c'est un ensemble de bonnes pratiques pour organiser un service informatique. Sur GLPI, ça a beaucoup impacté la partie helpdesk, donc la partie ticketing. Moi, ce que je voulais aussi savoir pour finir sur ce point-là, c'est jusqu'à l'arrivée en fait de l'assurance maladie, vous n'aviez pas de contributeurs développeurs à temps plein. À partir du moment où on est arrivé, il y a commencé à avoir des contributions à temps plein. Ensuite, par la suite, il y a David Durieux qui est arrivé aussi, qui a commencé à faire des contribs. Comment vous êtes organisé justement pour faciliter le fait de pouvoir contribuer avec des gens qui, eux, sont payés, ce qui n'était pas votre cas pour travailler sur GLPI en fait.
Comment on s'organisait ? On s'organisait pas, je crois. On y passait nos soirées, nos week-ends et nos vacances.
On a passé beaucoup de temps, c'est vrai. Mais alors, d'abord, Julien était extrêmement efficace, il faut le dire. Bon, il est peut-être encore, hein, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, il était extrêmement efficace avec un niveau de productivité assez impressionnant. On s'inscrivait, nous, dans une logique de best effort. On recevait des contributions, on mettait un point d'honneur à répondre le plus vite possible, à intégrer le plus rapidement possible et le mieux, parce qu'on c'est une question de respect de la contribution. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on en a eu beaucoup, parce qu'on laissait pas les gens attendre 10 mois qu'on étudie ou leur patch ou leur proposition ou qu'on leur réponde. Je nuancerai un peu, on s'est quand même organisé en termes de structuration, de process. On a beaucoup écrit sur, à l'époque, les forges qu'on s'est constituées nous-mêmes. Donc on a beaucoup outillé On avait les roadmaps automatisés, les gestions de tickets associés. Aujourd'hui, ça fait rire tout le monde parce que c'est disponible pour n'importe qui. Mais à l'époque, il a quand même fallu monter des serveurs, installer des forges. On en a changé, je ne sais pas combien de fois d'ailleurs, parce que le projet naissait et vivait et mourait. On a géré avec du CVS, avec du SVN, avec du Git. Enfin voilà. Mais on a aussi beaucoup structuré et outillé en process formalisé. Voilà. Donc du coup, quand un contributeur arrivait, on l'orientait facilement vers le wiki communautaire qui gérait les aspects vers la forge, et tout, où tout était expliqué. Comment on faisait une contrib, par quel process ça passait, comment on sortait une nouvelle version, comment on inscrivait des éléments dans une roadmap, comment on validait des specs, comment elles devaient être écrites pour être compris par tous, etc. En fait, on a énormément travaillé sur la structuration du projet, pas du code, mais c'est beaucoup de temps et beaucoup de réflexion et beaucoup de neurones, et ça a permis une intégration beaucoup plus rapide de nouveaux contributeurs.
Il y avait deux choses. Il y avait une communication synchrone sur IRC, globalement, et une communication asynchrone. Il y avait une mailing list, et effectivement, il y avait toutes ces specs, etc. De temps en temps, il y avait des réunions le soir, parce que vous faisiez les réunions le soir, qui était le moment où vous étiez disponible. Donc nous aussi, on faisait des réunions comme ça, etc. C'était en fait un mélange des deux, où, alors que vous étiez au boulot, souvent d'ailleurs, vous aviez une tête sur IRC, et vous répondiez et tout ça. Et moi, ça m'a toujours, pas surpris, mais ça m'a toujours bluffé de voir que vous étiez capable d'être là sur IRC et de répondre dans la journée, de regarder ce qui se passe, alors que vous aviez un boulot.
Oui, on y a consacré beaucoup, beaucoup de temps, soir, week-end, vacances et autres, les pauses du midi, je me souviens, manger un sandwich et puis je répondais sur le forum. Parce qu'on avait aussi un forum communautaire avec beaucoup d'utilisateurs auxquels il fallait répondre. C'est des choses qu'on a fait à une époque, parce qu'on était passionné, parce qu'on y croyait, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, parce qu'on avait aussi des retours très motivants et très positifs des gens. Voilà, on était dans quelque chose de très émulant. Maintenant, c'est une chose est certaine, et d'ailleurs, l'histoire le montre, c'est que ça peut pas se faire indéfiniment.
Alexandre, toi, t'es arrivé quand sur le projet GLPI? En quelle année?
Alors, exactement en octobre 2010, avec mon arrivée chez TechLib, et être embauché en tant que développeur. Je découvre GLPI à ce moment-là précisément. Le logiciel libre, je connaissais déjà un peu, j'étais beaucoup utilisateur au sein de mes précédents emplois. Très vite, on m'a mis sur des projets donc de production, de développement, des projets d'intégration, on va dire, de GLPI chez des clients de TechLib, et sur lequel cela nécessitait énormément donc de développement. Et donc en 2010, je crois que je vous rencontre vous deux, Julien et Jean-Mathieu, en janvier 2011, puisqu'on s'en a fait la FOSDEM ensemble à ce moment-là. Et j'avais produit à ce moment-là, en quelques mois, mon premier plugin, donc qui était une interface mobile. Et donc voilà, c'était aux alentours de ces années-là, 2010-2011, où j'ai commencé mes premières passes d'armes sur le logiciel. Quoi.
Alors, il y a un sujet que j'aimerais vraiment aborder, parce qu'il est très, je trouve, en tout cas dans l'écosystème français à l'époque, il est très atypique. Je pense que c'était aux alentours des années 2009, quelque chose comme ça. À un moment, vous commencez à travailler, à travailler sur un système de partenariat entre l'association Adeptnet et les différents intégrateurs, puisqu'il y en avait plusieurs. Donc Xavier travaillait chez un intégrateur, David Durieux était lui-même intégrateur, nous on était intégrateurs, il y en avait d'autres qui arrivaient, etc. Et je pense que ce système a été assez unique finalement. Je ne sais pas d'où vous l'avez sorti, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'à ce moment-là, d'autres projets aient essayé de suivre cette voie de la même manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, soit Julien, soit Jean-Mathieu, un peu en quoi ça correspondait?
Mon souvenir sur la date, c'était aux alentours de 2008 que ça a été constitué, mais en fait, les réflexions, elles étaient antérieures. On avait souvent des échanges avec Julien sur le fait qu'on était régulièrement sollicités par des utilisateurs pour des demandes de prestations et de développement. Ce qu'on ne faisait pas, puisque l'association n'avait pas l'intention d'offrir des services sur ce logiciel. Nous, on était toujours dans une logique de développement communautaire, et de toute façon, on avait nos boulots. Du coup, au départ, on orientait tout simplement vers des entreprises qui avaient collaboré ou contribué au projet. Et de mon cerveau malade est venue l'idée qu'on pouvait peut-être formaliser ça de manière à avoir la possibilité d'afficher clairement pour les utilisateurs un réseau de partenaires qualifiés, mais surtout, au-delà de la qualification, de partenaires qui acceptaient de soutenir le projet. Voilà. Parce que je trouvais que c'était important quand un client, une entreprise ou un acheteur public devait choisir un prestataire, qu'il sache quel était le prestataire qui allait jouer le jeu ou pas du logiciel libre et de la contribution. Parce que on avait quand même vu et constaté plusieurs fois qu'il y avait des gens sans conscience ni vergogne qui avaient pillé ou habillé plus ou moins adroitement GLPI et l'avaient revendu à un client qui se retrouvait quelques années plus tard dans l'incapacité de faire une seule évolution ou mise à jour parce que tout avait été trafiqué, développé, pas forcément très proprement et puis sans perspective de long terme en termes de... Voilà. Vous n'avez pas fait de plugin, par exemple. Sur un développement spécifique packagé en plugin, ça n'empêchait pas de mettre à jour GLPI. Là, on a eu des structures qui nous avaient contactés. Certains, des fois, les larmes aux yeux en disant, mais on peut plus mettre à jour, on peut plus rien faire. Ben non, ils étaient coincés, quoi. Donc, on avait souhaité un peu rendre les choses beaucoup plus lisibles et saines pour nos utilisateurs. Et puis, en même temps, créer un réseau de partenaires qui soutiendrait l'association pour assurer l'évolution du logiciel, puisqu'on espérait à moyen terme pouvoir pourquoi pas embaucher des développeurs à temps plein pour travailler sur le maintien, la maintenance de GLPI.
Vous rappelez un peu des termes ou pas? Globalement, je sais plus.
Des termes.
Je ne me rappelle plus exactement à quoi vous vous engagiez. Il y avait des choses quand même qui étaient un peu contraignantes pour vous, qui étaient bénévoles, quoi.
Oui, c'était surtout sur une logique de best effort, sur le fait qu'on s'engageait à traiter les contributions rapidement, à répondre aussi aux interrogations de nos partenaires, à les informer d'évolution de la roadmap. C'était pas tellement des engagements d'ordre contractuel, parce qu'on ne pouvait pas. C'était plutôt des engagements moraux pour faciliter la vie des partenaires qui s'engageaient à soutenir le projet, pour lesquels on avait parfaitement conscience qu'il fallait quand même répondre à des contraintes clients aussi. Donc on comprenait les contraintes. Donc on témoignait d'une compréhension et d'une prise en compte de ces contraintes dans notre fonctionnement aussi. Voilà. Ce qui rassurait un petit peu tout le monde sur la façon dont on pouvait collaborer. Après, voilà, le réseau de partenaires, il s'est constitué avec des gens qui contribuaient déjà depuis quelques temps. Donc, ça a été surtout une formalisation de l'engagement aussi de ces partenaires à soutenir le projet. Voilà. Et donc, les partenaires soutenaient financièrement le projet.
Moi, ce que je voulais savoir, Julien, c'est quand ça s'est mis en place et vous avez commencé à avoir les premiers partenaires, quels ont été les premiers effets en fait? Qu'est-ce que ces contributions financières et ces contributions tout court ont fait sur le projet?
Sur le projet, en termes de contributions, ça n'a rien changé. Comme le disait Jean-Mathieu, c'est plutôt la validation de contributions et de partenariats qui étaient déjà existants. Mais ça a surtout permis, pendant de mémoire au moins 5 ans, de pouvoir financer, même si on n'a jamais réussi à financer un développeur à temps plein, de financer moi mon travail sur une journée. Donc pendant 5 ans, je me suis mis à temps partiel pour GLPI et que pour GLPI.
Même si je suppose, mais ça j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus, même si je suppose que ça n'a pas forcément atteint les objectifs que vous auriez potentiellement imaginé, les effets ont été quand même concrets, quoi, réels.
Bien sûr, tout à fait.
Je ne sais pas, est-ce que vous aviez des objectifs et j'allais dire un peu avec le recul, côté justement... gestion communautaire bénévole, qu'est-ce que vous en tirez en fait de ces problèmes de partenariat avec le recul?
C'est le terme, tu parles de problème de partenariat, pour moi il n'y avait pas de problème. On a initié le réseau de partenaires en 2008, on a constitué un réseau qui s'est enrichi au fur et à mesure, ça a permis de dégager des fonds pour pouvoir financer du temps de développement à côté. Après, si on lui avait laissé plus de temps, peut-être que le réseau de partenaires aurait continué de s'étoffer pour permettre d'arriver à un niveau suffisant pour avoir du financement global d'un poste à temps plein ou plusieurs, j'en sais rien. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment au contraire un système gagnant-gagnant pour tout le monde. Après, je ne sais pas si tu fais référence au fait.
J'ai pas dit problème, j'ai dit programme. C'était pas pareil.
Ah, programme, c'est moi qui as. Alors voilà. Je vous avais dit, mon grand âge fait que maintenant, en plus, je deviens sourd.
Je suis bien plus jeune que toi, mais j'ai aussi compris problème.
Ah bon, bon, ça va.
Ah, bon, bah, j'ai peut-être dit problème alors, désolé. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir les retours. Qu'est-ce que vous en tirez, en fait, de ce que vous avez mis en place avec le recul? Je sais pas, Julien.
Pour moi, ça a été que du positif, fondamentalement, mais... Après, voilà, ça aurait pu effectivement prendre une autre ampleur, mais on n'avait pas les moyens, ni on a fait l'effort d'aller démarcher des gens pour s'inscrire dans le partenariat. C'était pas non plus notre but. Les partenaires venaient vers nous. On n'allait pas les chercher. On n'avait pas la force pour le faire, et puis c'était pas du tout l'objectif non plus.
Et vous avez jamais pensé à essayer de monter une société? C'est quelque chose qui vous a effleuré à un moment ou pas?
Oui.
J'ai souvenir qu'on en a parlé plusieurs fois. On était tous les deux dans nos métiers et à l'époque dans des structures publiques. Et moi, je suis fondamentalement attaché à la fonction publique, en fait. Donc, lâcher mon travail, c'était compliqué. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment pas... Et je crois que les moments où on se les posait vraiment les questions, c'était des moments un peu charnières dans nos carrières à tous les deux, et où donc c'était pas du tout possible, en fait.
Et puis, c'est vrai qu'on en a discuté plusieurs fois, parce qu'effectivement, quand on voyait le succès de GLPI, on pouvait se questionner. Être entrepreneur et bâtisseur d'un projet communautaire, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même métier. Voilà, nous, on gérait une communauté, mais on n'avait pas de problématique RH qu'un employeur connaît lorsqu'il traite avec des employés, des salariés. On n'avait pas des questions de business model, de gestion, de seuil de rentabilité, d'investissement, de risques financiers. Enfin, nous, on consacrait notre temps à la construction et à la vie de ce projet communautaire, sans avoir tous les à côté de l'entrepreneuriat. C'est quand même pas le même boulot. Et d'ailleurs, on peut tout à fait être entrepreneur, y compris dans un logiciel. Et puis ne rien y connaître et pas toucher une ligne de code. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est d'être des touches à tout, sur tous les sujets. On était sur la com du projet, sur la vie technique du projet, sur la vie communautaire, sur l'échange, sur des rencontres. On a rencontré plein de gens, c'était extraordinaire. Et on se focalisait. Enfin, on n'était pas sur des questions de chiffre d'affaires, de bénéfices, de capitaux, de et autres. Enfin voilà, c'est pas non plus le même boulot. Et on trouvait qu'il y en avait qui le faisaient très bien, donc on leur laissait. Voilà, on s'est posé la question à un moment, c'est vrai. On s'est dit, est-ce que voilà. Maintenant, comme on avait aussi des partenaires qui faisaient très bien le job, on voyait pas trop non plus ce qu'on aurait apporté de plus. Voilà. Et comme Julien, moi je suis très attaché à la fonction publique et à l'intérêt général, donc voilà.
Je crois qu'une des choses qui nous a fait peur aussi, c'est que mécaniquement, on aurait eu des clients en face de nous, et on avait peur que les clients qu'on aurait dû servir allaient nous détourner et nous faire sortir de la voie qu'on avait tracée pour GLPI et la voie qu'on avait la voie sur laquelle on voulait pas bifurquer de GLPI, quoi. Il aurait pu, voilà, ça aurait pu amener des choses qu'on n'aurait pas voulu et qu'on aurait été obligé de faire, alors qu'on, dans le cadre communautaire, on les aurait pas fait, quoi.
Et en fait, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que si je me place du côté d'une société de service, pour nous, c'était vachement intéressant parce qu'on était forcément des partenaires et on était contributeurs. On faisait partie de l'équipe de développement, même si j'en ai jamais été membre de l'association et c'est pas quelque chose qu'on voulait particulièrement. Nous, on était là sur GLPI, ça nous allait très bien. On était là, je pense, tous pour des raisons différentes. Moi, c'est un peu comme vous, je connaissais pas ce milieu, mais quand j'ai commencé, en fait, je suis un peu tombé amoureux dedans. Et puis après, j'ai continué parce que j'avais envie de pouvoir voir mes clients partir d'une solution propriétaire pour aller vers une solution libre. Et être capable de convaincre les gens que arrête de payer pour ton gros logiciel propriétaire tout pourri et on fait la même chose avec un logiciel libre et viens nous aider à contribuer à rendre le logiciel meilleur. Je pense que entre le moment où moi je suis arrivé jusqu'au moment où vous nous avez passé la main, vous nous avez vraiment passé, je pense, l'esprit de ce que vous vouliez faire au niveau communautaire, dans les réflexions qu'on a pu avoir, la manière de penser, de faire les specs, etc. Je pense que, et ça fait ma transition, je pense que quand nous, on a repris la gestion du projet, on a juste essayé, alors bien sûr à notre manière, mais de continuer ce que vous avez fait en fait. Alors bien sûr, pas pareil parce qu'on n'est pas vous deux, quoi, mais vous nous avez vraiment passé, je pense, l'esprit dans lequel vous avez travaillé toutes ces années sur le logiciel. Je ne sais pas si Alexandre, tu veux dire quelque chose sur la partie SS2I, sur la partie société partenaire.
Oh non, parce que cette période-là particulièrement, j'étais encore relativement nouveau à la fois sur le projet et même dans ma carrière. Et donc, du coup, je ne suis pas sûr d'avoir des souvenirs particuliers, que ce soit d'un point de vue économique ou ce genre de choses. Moi, j'ai fortement apprécié le début de l'aventure avec tout le groupe était passionnant et enfin moi en tant que nouveau développeur, c'était quelque chose que de mes précédents jobs, je voulais justement travailler dans une communauté de logiciel libre ou ce genre de choses et c'était vraiment un moment extrêmement passionnant que ce soit avec donc les personnes externes de TechLib, donc au sein de la communauté internet, mais aussi les gens de TechLib qui m'ont porté, donc que ce soit toi Walid ou Gonéry qu'on a évoqué précédemment, c'était vraiment assez exceptionnel sur le moment quoi. Mais sinon non, comme je disais, j'étais assez nouveau sur le moment et mon avis est moins pertinent je pense sur cette partie là du coup.
Alors maintenant, je voudrais qu'on passe cette troisième partie et dernière partie d'entrevue sur cette période de transition. À quel moment Vous faites le constat qu'en fait, en gros, il faudrait certainement changer des choses. Comment sont amenées les réflexions qui vont ensuite arriver en 2015 au fait que finalement, vous passez la main à l'entreprise TechLib?
Moi, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge dans toute cette histoire. Donc, je me souviens pas de la réunion avec la CNAM sans qu'on m'en reparle. Donc, je saurais pas faire le rapprochement. On est arrivé sur un moment de GLPI où on avait construit GLPI pendant 10 ans. En essayant de rafraîchir l'historique, mais en ayant un legacy sur les aspects techniques. Et donc, on s'est posé la question à un moment donné d'une réécriture complète qui pouvait être nécessaire parce que voilà, on traînait un certain nombre de choses. On était sur du PHP d'il y a des années 2000. Arrivaient tout ce qui était modèle MVC sur lesquels on n'était pas du tout là dans GLPI. À l'époque, donc, on s'est posé cette question-là. On a beaucoup échangé, en particulier avec l'ensemble des contributeurs, avec David Durieux, avec toi, Walid, avec d'autres gens, sur qu'est-ce qui était pertinent, comment on pourrait faire. Mais je suis pas certain que cette volonté ou cette idée de réécrire complètement ait un impact sur la décision de passer la main, en fait. Jean-Mathieu donnera son avis après, mais je pense qu'on était surtout arrivé, en tout cas pour ma part c'était le cas, à une étape de ma vie personnelle qui faisait que j'aspirais à autre chose. Et certainement une forme de lassitude du modèle. Voilà. Même si encore à l'époque de mémoire j'étais encore à 80% et encore j'avais encore une journée disponible pour GLPI, donc ça c'était très très agréable pour moi parce que j'avais vraiment une journée toutes les semaines pour me libérer du travail et vraiment me donner à 100% pour GLPI, donc ça c'était très très confortable. Mais je pense que personnellement j'étais arrivé à une lassitude et surtout à un tournant de ma vie personnelle qui fait que c'était le moment de passer la main. Tournant de vie personnelle, typiquement, voilà, on a passé la main 6 mois après, mon premier garçon est né, quoi. Donc voilà, c'était.
On n'avait pas reparlé avec Julien de cette époque, donc j'écoutais avec beaucoup d'émotion ce qu'il disait, mais je pense que en fait, il y a eu une conjonction d'éléments qui ont amené à cette décision de passage à un partenaire, de transmettre le flambeau à un partenaire du projet GLPI. Effectivement, Julien l'a bien dit, mais je l'avais un peu, c'était un peu sous-jacent dans mes explications précédentes quand j'ai dit on travaillait un peu en mode turbo, on peut pas travailler indéfiniment, mais c'est vrai. Il y avait ils sont pas dans l'ordre, mais il y avait un état de fatigue. Ça faisait 10 ans qu'on portait le projet. Contre vents et marées, jour, nuit, week-end, vacances, parce que on n'a pas dit, mais pour faire vivre la communauté, on organisait aussi des séminaires délocalisés, on invitait tout le monde, Je me souviens de Coding Weeks aussi avec avec Julien, on passait bon nombre de nos vacances à, jusqu'à 6h du matin à refaire des développements, etc. Mais bon, voilà, c'est une époque, on s'est vraiment beaucoup amusé et enrichi. Comme toute chose, ça a une fin. À la fois, il y a une fatigue intellectuelle, psychologique, physique, et puis effectivement, une aspiration aussi à d'autres choses d'un point de vue personnel, peut s'entendre. Après, il y a eu aussi, par rapport au projet lui-même, sans parler de la Dev Team, le projet lui-même, nous, on trouvait qu'on avait fait un petit peu le tour et que pour avancer plus loin, on était arrivé à la conclusion qu'il fallait réécrire GLPI pour répondre aux aspirations ou à aux lignes directrices qu'on souhaitait former pour les 10 années qui suivaient la vie prochaine pour GLPI, en fait. Et là, quand on s'est regardé avec Julien et qu'on s'est dit « Oh là là, il y a tout ça à faire », on s'est dit « On n'aura pas l'énergie pour le faire ». Donc on s'est dit « Est-ce qu'on est encore les bons parents, entre guillemets, pour s'occuper de GLPI ?» Voilà. Est-ce qu'on est encore les bonnes personnes pour s'occuper de GLPI, en prendre soin et l'emmener plus loin ? Bah, naturellement, on est arrivé à la conclusion que non. Et donc, il fallait envisager de transmettre le flambeau de manière plus formelle. Après, on aurait aimé que naturellement, des contributeurs passaient de Padawan à grand maître, naturellement, mais ça s'est pas fait, parce qu'en fait, sans doute, par la force des choses, les gens peut-être voulaient pas forcément remettre en cause notre légitimité, ou je sais pas, ou c'était aussi peut-être pour des questions de confort aussi, se dire, bah voilà, on a toujours affaire aux grands sages qui sont les gardiens du temple, et puis voilà, ça donnait aussi plus de liberté en tant que contributeur. Enfin, j'ai pas d'explication forcément claire et nette sur le sujet, mais enfin, l'état de fait a fait qu'on n'a pas naturellement de gens qui ont repris le projet de manière naturelle. Donc on s'est dit, bon bah voilà, il faut faire un grand big bang, et puis qu'on contacte nos partenaires pour leur proposer de reprendre le projet, mais en expliquant bien ce qu'on voulait pour GLPI, et en vérifiant auprès de chacun qu'ils étaient en capacité de le reprendre selon les lignes directrices et fondatrices du projet. Voilà. Parce que sinon, je veux dire, on aurait pu tout simplement fermer les portes et puis laisser le code à disposition, et puis il y aurait bien naturellement quelqu'un qui l'aurait fait, mais nous, on souhaitait aussi sauvegarder l'intérêt de la communauté et assurer les choses dans le temps.
Je m'aperçois que j'ai oublié de citer quelqu'un qui joue un rôle assez important dans la suite du récit, que c'est un oubli de ma part, c'est Pascal Aubry, qui est donc le fondateur de TechLib, et qui a toujours cru en GLPI depuis très très longtemps, qui a été un peu l'architecte du changement de gouvernance du projet. Voilà, et personne avec qui vous aviez d'ailleurs de mémoire des très bons rapports, si mes souvenirs sont bons.
Pascal, ça a été un des premiers à œuvrer et à travailler avec nous sur le réseau de partenaires. Il avait bien compris et la logique et l'intérêt mutuel qu'il pouvait y avoir. Pascal s'est toujours inscrit dans une logique gagnant-gagnant, donc on s'est très bien entendu dès le départ. Quand on a proposé la reprise du projet, et il y avait d'autres candidats, on a fait le choix du partenaire qui présentait le maximum de garanties pour la continuité, la pérennité du projet, l'engagement du respect de la philosophie et de la licence du projet, et puis la capacité aussi du partenaire à mettre des moyens, parce que si on transmettait le flambeau, c'était pas pour que le projet vivote, mais c'est bien pour lui donner les moyens qu'on n'était pas en capacité de donner au projet. Voilà. Donc c'est comme ça que la transition s'est faite.
Ouais, je pense que c'est vraiment important. On a lâché parce qu'il y avait une lassitude, il y avait tout ça, il y avait plein de facteurs. Mais le facteur principal, c'est qu'on voyait qu'on n'arrivait pas dans le modèle qu'on avait mis en place à donner à GLPI vraiment l'envergure qu'on attendait pour le projet, quoi.
C'est assez clair, et nous, pour l'avoir vécu de l'intérieur, on sentait bien la lassitude, et moi je suis, je le dis à chaque fois, mais je suis extrêmement admiratif du temps que vous avez passé de manière bénévole. Je ne sais pas si j'aurais pu passer autant de temps de manière bénévole sur... Donc en 2015, on fait un communiqué de presse commun pour annoncer le changement de gouvernance du projet, le fait que donc TechLib, c'est-à-dire en gros... dans les faits, Alexandre et moi, quoi, on va reprendre la suite. Qu'est-ce qui se passe pour vous à partir de ce moment-là? Après, j'expliquerai de notre côté, ça n'a pas été de tout repos, quoi. Mais ce que je voudrais, c'est que vous expliquiez, vous, comment vous avez vécu ça, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a publié ce communiqué?
Bon, on avait les boules, quand même. C'est pas évident de laisser son bébé après 13 ans d'allaitement, là, jour et nuit. Ça a été douloureux. Ça a été un peu compliqué. Après, on s'était engagé à assurer une transition la plus douce possible pour le projet, pour les équipes qui reprenaient le projet, parce que tous les outils de gouvernance, nous, on avait la parfaite maîtrise, mais c'était pas forcément le cas de ceux qui reprenaient. Enfin voilà, on a assuré la transition la plus douce possible pour la communauté aussi. On a essayé voilà de laisser quelque chose le plus propre possible. Ça a été voilà, on a eu les boules, c'était un peu. C'est un peu douloureux le détachement, mais en même temps un soulagement aussi, enfin pour ma part.
Pour moi, la transition un peu plus douce parce que je suis passé des couches de GLPI aux couches de mon enfant, donc voilà, c'était pas. J'ai juste changé de bébé, quoi. Et ça et humainement, pour être voilà, ça fait passer beaucoup de choses.
Comment vous avez vécu après l'annonce, les réactions des gens?
Plus ou moins bien. Enfin, on a eu de tout, hein, comme réaction, Julien. On a eu des réactions très positives en disant, bah oui, on comprend, vous avez bien fait, on respecte, merci pour tout ce que vous avez fait. On va dire que ça a été la majorité des réactions. Et puis, on a eu des réactions un peu bizarres certaines personnes qui nous ont littéralement engueulés. on s'est fait traiter de salauds, hein, parce que on a abandonné le projet et on les a abandonnés potentiellement. Des réactions un peu particulières, un peu bizarres. Bon, je pense que c'était aussi des fois une façon d'exprimer une certaine tristesse, mais de manière un peu agressive ou maladroite. On a bien apprécié et bien pris les réactions positives et plus ou moins bien reçu les réactions un peu négatives. Bon, moi, j'ai toujours eu un franc-parler, donc quand j'estimais que les gens dépassaient un peu les bornes, il y a eu des recadrages un petit peu brutaux, mais voilà. Parce que, encore une fois, on estimait qu'on ne devait rien à personne, si ce n'est à nous-mêmes, initialement. Voilà. Après, tout ce qu'on faisait, c'était par bonne volonté, par respect pour les autres, mais fondamentalement, on ne devait rien. Sauf que certains pensaient qu'on devait quelque chose.
Oui, les réactions ont été diverses, mais... On a essayé d'expliquer au maximum le pourquoi on l'avait fait et surtout le choix, il a vraiment été guidé vers la pérennité du logiciel et la meilleure solution de notre point de vue pour les utilisateurs sur le long terme. C'était vraiment ça l'objectif et c'était le mot d'ordre derrière GLPI et derrière tout le travail qu'on a pu faire, c'était toujours pour les utilisateurs. C'était le mot d'ordre qu'on véhiculait tout le temps, on fait toujours quelque chose pour les utilisateurs et tout ce qu'on fait, on le fait pour la communauté. Et cette passation, elle a été aussi faite dans ce sens-là. Même si elle a pu être douloureuse pour nous, elle était nécessaire, je pense pour nous personnellement, mais elle était aussi nécessaire pour la communauté.
Je pense qu'avec Alexandre, on va pouvoir expliquer un peu, nous, comment on a vécu ça. Je pense qu'on en parlait juste avant, on n'était pas du tout prêt à ça. Quand ça nous est tombé dessus, on était super contents, mais on était là genre, oulala, écrasé par la tâche, quoi. Tellement de choses à faire.
Et ça s'est fait honnêtement assez vite, il me semble. En quelques mois, on a appris la nouvelle. Enfin, moi, j'ai appris la nouvelle. Et oui, un trimestre après, la chose était faite. Et donc, du coup, oui, ça, il a fallu se mettre en ordre de bataille très, très vite de ce point de vue-là, quoi.
Parmi les choses qui m'ont le plus surpris, finalement, même si je comprends après coup, c'est avec Alexandre et mes autres collègues, on a passé pas mal de temps au téléphone ou aller physiquement voir nos clients, nos bons clients, pour leur expliquer donc les gens à qui on travaille depuis des années, pour leur expliquer qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on allait faire. Et en fait, on a eu énormément de réactions de manière communautaire ou de gens qui n'étaient pas forcément proches de nous, ou même d'autres qui étaient proches de nous, qui en gros nous ont quasiment littéralement accusés d'aller refermer le projet. Chose qu'à l'époque, je comprenais pas du tout, puisqu'on ça faisait des années qu'on travaillait et qu'on était tous très contents de faire du code GPL et que on était tous très contents de faire une communauté, donc j'avais du mal à comprendre, en fait. Je peux comprendre que des partenaires qui étaient au même niveau que nous, au niveau communautaire à l'époque, et qui demain se retrouve à ce que, bah, en fait, il y a un concurrent qui devient l'éditeur du logiciel. Je peux comprendre ça, mais en fait, on a dû passer énormément de temps à devoir expliquer aux gens que non, on n'allait pas refermer le projet, non, on allait continuer comme ça, mais juste lui donner plus de moyens et l'améliorer au fur et à mesure, etc. Ça a été un travail finalement assez long, quoi. Et la deuxième chose, c'est bah voilà, en fait, en gros, bah le projet maintenant, c'est toi qui gères le projet. Et là, en fait, c'est là que tu passes de l'autre côté de la barrière et que tu t'aperçois que effectivement, c'est très compliqué. Il y a énormément de choses à faire. Il y avait déjà ce que vous aviez discuté avec nous de ce que vous vouliez qu'on fasse. Donc le fait de réécrire l'application, etc. Et on peut reparler entre ce que vous aviez pensé et ce qu'on était en mesure de faire à l'époque. Parce qu'il fallait tout refaire. Enfin, il y avait pas juste, c'était pas juste du code. Il y avait aussi toute une gestion commerciale. Il y avait plein de trucs à mettre en place, quoi. Et donc ça a été une période assez formatrice, mais assez compliquée. Je sais pas, Alexandre, qu'est-ce que tu peux en dire, toi?
Il y a deux points qui me viennent en tête assez facilement. Bon, déjà, vous l'avez évoqué plusieurs fois, c'était la nécessité donc de réécrire le logiciel. Honnêtement, je pense que je suis toujours d'accord avec cet état de fait. Et force est de constater qu'on l'a, ça fait 8 ans maintenant, on l'a jamais fait, du coup. Par contrainte technique, par taille d'équipe, par le fait qu'on ait une société et que du coup, on a des clients en face et que du coup, on n'a pas forcément une... Enfin, vous l'avez dit vous-même que forcément, il y a le fait d'être en communauté, vous avez le choix de votre roadmap un peu plus libre. De notre côté, il y avait des besoins de financement aussi de notre côté et sur lequel s'inscrire dans une réécriture complète a été envisagé, mais du coup n'a jamais été possible. En vrai, après ces 8 années, globalement, GLPI ne ressemble quasiment plus au sein de sa base de code à ce qu'il était à l'époque. Il y a eu énormément d'évolutions, surtout ces dernières années. On a finalement réussi à remonter une équipe au final, puisqu'à l'heure actuelle, on est une dizaine de personnes à travailler sur le code source. Mais à l'époque, il y avait Walid et moi, et on avait un jeune développeur avec nous. On a essayé de recruter des personnes supplémentaires, et au final, on s'est rendu compte que c'était pas envisageable de s'occuper de ça. Donc, du coup, on a travaillé par itération au début plutôt de façon assez légère. Donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout que il y avait effectivement une communauté, comme vous en parliez, mais il y avait surtout aussi un ensemble donc de partenaires, de sociétés commerciales dont nous on faisait partie. Et donc du coup, on a été, je sais pas comment dire, choisi pour faire cette reprise pour diverses raisons. Mais du coup, il y avait les sociétés en face qui se retrouvaient donc en concurrence avec l'éditeur. Il y a eu un choix qu'on a fait d'un point de vue commercial qui a été de dire, on ne fait plus d'intégration sur le logiciel et on laisse l'intégralité en fait de ces revenus en fait aux partenaires existants ou aux futurs qui vont nous rejoindre. Et nous, on va se concentrer sur des prestations payantes, donc d'amélioration de la roadmap et ou du support. Et donc, au début, ça a été très difficile, mais au final, ça a plus ou moins marché. Et j'imagine qu'on en parlera dans l'épisode suivant. Du coup.
Il y a des choses qu'on a gardées très clairement. Toute la philosophie du logiciel sur les fonctionnalités, etc. Il y avait un héritage qui était excellent, quoi. On a juste essayé de chercher effectivement des financements supplémentaires. Il y a une deuxième chose dont on n'a pas parlé, c'est effectivement que contrairement donc à tout ce que tout le monde pensait, le code source n'a pas changé de licence, c'est resté de la GPL. Le code source était toujours disponible.
Il a changé récemment, cela dit, mais il est resté sur une GPL, du coup.
Ouais. Il y a des transitions de mainteneur qui s'effectuent plus ou moins bien ou pas. En tout cas, nous, on s'est placé dans la continuité de ce que vous avez fait, Julien et Jean-Mathieu. On n'a pas réinventé la roue en termes de philosophie et de manière de faire les choses. On l'a juste fait différemment parce que on est une société, on avait des clients, on avait des opportunités. Il y a des choses qu'on a pu faire, il y a des choses qu'on avait envie de faire aussi. Mais globalement, on a essayé de garder, en fait cette philosophie et de faire une transition en douceur parce que c'était plus facile. Il y a des projets qui ont tout réécrit, je pense. Alors en particulier, je pense que c'est, je sais plus si c'est Nuxeo, je sais plus quel GED qui est écrit en Python et qui s'écrit réécrit en Java complètement. Il y a des projets qui se réécrivent, mais finalement, je pense que c'est pas la majorité. Pour une partie des raisons qu'a expliqué Alexandre, je pense, c'est parce que la réalité économique, je suppose, fait que c'est quand même hyper compliqué d'avoir deux équipes différentes qui bossent sur deux technos différentes. Julien, Jean-Mathieu, quels sont vos retours là-dessus? Comment vous voyez les choses finalement avec le recul et par rapport à ce que vous aviez imaginé?
on avait passé le flambeau, après, on passait pas le flambeau en disant « il faut réécrire ». Passer le flambeau, après, vous deveniez les gardiens du temple. Et nous, cette réécriture complète, on a mené le projet pendant 13 ans en faisant évoluer les choses en douceur comme vous l'avez fait depuis aussi. Et le code de la 0.2 n'a strictement rien à voir avec le code de la dernière version avant qu'on vous passe la main. Donc, on a fait ça pendant 13 ans. Et c'est peut-être aussi ça qui nous a fait peur, comme ça a pu vous faire peur la réécriture complète. Voilà, c'est...
En vrai, enfin, je pense qu'on est, nous, enfin, tous les deux, on était très enthousiastes à l'idée de faire une réécriture complète du logiciel. On aurait aimé faire ça, en vrai. Mais bon, ça a été, ça n'a pas réussi comme ça, in fine, quoi.
Moi, j'ai souvenir dans les discussions qu'on pouvait avoir à l'époque sur la réécriture complète, ce qui nous posait un réel problème dans le modèle associatif, c'était de se dire, si on réécrit complètement, il nous faut au moins un an. C'est-à-dire que pendant un an, on bloque toutes les évolutions pour les utilisateurs. Et donc, on risque d'avoir une perte de communauté pendant un an où on sortait un peu de notre ligne directrice de faire évoluer JLPI pour les utilisateurs. Voilà.
Julien a un peu tout dit. Alors, moi, j'aurais aimé voir JLPI NG, ne serait-ce que par curiosité, voilà. Ce projet de réécriture, on avait quand même fait une avance de phase, on avait même un POC, hein, donc on avait quand même pas rien. J'aurais aimé, par curiosité, voir si on, voilà, par curiosité technique, si les choix qu'on avait fait, les précos qu'on avait vus et les avancées fonctionnelles qu'on envisageait étaient pertinentes ou pas. Voilà, ça m'aurait amusé de le voir. Je suis comme Julien, nous on n'avait pas imposé aux partenaires qui reprenaient le projet de réécrire GLPI. Voilà, on avait expliqué ce qu'on avait fait et où on en était, et on comprend tout à fait qu'il y avait un existant, il y avait une communauté à satisfaire, et puis après, dans le cadre d'un business model, voilà, il y a des contraintes et financières et de clients et de financement et autres. Voilà, il n'y a pas de souci. Avec le recul, moi j'ai le sentiment que le contrat moral, il a été respecté. Je veux dire, le logiciel est toujours sous licence libre. Il y a toujours une communauté existante. Après, il y a eu des évolutions dans le modèle économique, mais même dans le positionnement du partenaire, puisqu'il est passé d'intégrateur à éditeur, proprement dit, de la solution, et de la partie intégration, elle est confiée au partenaire. Donc, c'est des évolutions de modèle. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que on fête les 20 ans de GLPI cette année, que GLPI est toujours là, qui visiblement continue de satisfaire bon nombre de structures. J'ai rencontré des informaticiens d'une grosse collectivité qui me disaient « Ah, on va déployer GLPI chez nous ». Voilà, enfin, donc ça prouve que ça continue encore de s'étendre et puis de répondre à des besoins. Je dirais contrat rempli, et puis... Je me revois encore en 2002, lorsqu'on sortait la première archive de GLPI. Je n'imaginais pas un jour me dire qu'on allait fêter les 20 ans de GLPI. Voilà.
Je pense que personne n'imaginait le tour que ça allait prendre. C'est quand même une super aventure. Moi, il y a un truc que j'en retiens, qui est une grande leçon que j'en retiens, c'est qu'en fait, t'as beau avoir un projet, avant tout, c'est des hommes, c'est des gens. Ça marche bien quand les gens ils s'apprécient, ils se respectent et qu'ils arrivent à bien travailler ensemble. C'est vraiment le truc que j'ai toujours ressenti avec GLPI, c'est le fait qu'il y avait vraiment du respect, qu'on arrivait à tous bosser ensemble et que si je prends par exemple le cas d'OCS, il y a un moment où les gens d'OCS ont dit à une partie des gens qui bossaient avec eux, donc Gonéry, David, etc. Bon, les gars, ça serait mieux si vous alliez faire votre projet à côté, quoi. Et donc souvent c'est comme ça que les forts qui partent, c'est parce qu'il y a des problèmes de personnes, quoi, en fait, finalement. C'est même pas qu'on s'aimait pas, c'est juste qu'on avait des intérêts divergents, finalement. Et sur GLPI, on a réussi à voir ça, un but commun et tout ça, et bien bosser ensemble. Moi, c'est vraiment un truc que j'en retiens et que j'ai toujours essayé de garder par la suite.
Merci, c'est sympa, on prend. Moi, j'insiste toujours, GLPI, c'était pas un projet technique, parce que techniquement, il y avait rien de compliqué à faire un GLPI. Ça n'a pas été un projet non plus de diva. Ah ouais, j'en ai vu plein, hein, des projets comme ça, ou même des fois des gens qui sont venus nous voir en nous disant « Votre projet, c'est de la merde, c'est même pas fait en je sais pas quoi, le dernier langage à la mode, c'est même pas hébergé sur telle plateforme parce que c'est la plateforme à la mode, et puis votre machin, il roxe pas, il est pas international, il est pas ci, il est pas ça, voilà. » Et puis moi, je vais en refaire un parce que c'est pas compliqué à refaire techniquement. Et puis au bout de 2 ans, on n'entendait plus parler du tout de ce projet parce que la diva, elle était passée à autre chose ou qu'elle avait sauté sur une nouvelle techno qui était encore plus à la mode et plus sympa et plus rigolote. On a toujours eu conscience que notre projet n'était pas technique, il était avant tout fonctionnel et qu'après, l'enjeu, le vrai challenge, c'était l'aspect communautaire. Voilà. C'était le lien fort qu'on entretenait avec nos utilisateurs, la communication qu'on était capable d'avoir avec eux, les échanges, etc. Enfin voilà, nous on trouvait que c'était avant tout une aventure humaine plus qu'une aventure technique, donc on l'a toujours piloté comme ça. Je regrette absolument pas les 13 années passées, même si elles ont été extrêmement chronophages et énergétivores, ça a été un formidable moment de vie et une très belle aventure humaine.
Oui, j'allais dire, je donne la parole à chacun d'entre vous pour faire un mot de la fin, puisqu'on arrive à la fin de cette interview. Julien ?
Non, mais je confirme, c'est clairement des très belles années de ma vie. Donc, j'ai pris énormément de plaisir autour de GLPI. J'ai aussi beaucoup appris sur plein de choses qui me servent aujourd'hui dans mon travail. C'est vraiment GLPI, c'était une communauté avec des gens très variés, très divers. Donc, il a fallu réussir à faire travailler tout le monde ensemble, à tirer le meilleur de chacun, chacun avec ses qualités et ses défauts. C'était pas tous les jours facile, mais je pense qu'on y est arrivé. Un des éléments, moi, qui me marque peut-être le plus dans cette aventure, c'est la rencontre avec Jean-Mathieu, parce que c'est peut-être de ça que j'en retire le plus, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel, déjà. C'est le genre de personne qu'on rencontre pas souvent dans sa vie, en fait. On en rencontre peut-être un ou deux. Je sais même pas comment décrire ça, parce que voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte et donc qui m'a énormément appris pendant toutes ces années. Voilà.
Est-ce que j'ai le droit de pleurer? Merci Julien, en tout cas, je suis très touché par ce que tu viens de dire. Parce que je sais qu'en plus, c'est pas forcément des choses que tu dis facilement, donc ça a d'autant plus de valeur. Mais je dirais aussi que j'ai eu la chance de rencontrer aussi des gens exceptionnels, et tu en fais partie, parce que sans toi, GLPI n'aurait jamais pu être ce qu'il est. Et puis à titre personnel, voilà, j'ai pas juste rencontré des gens qui ont contribué, j'ai aussi et je me suis fait des amis. Ça vaut son pesant d'or.
Alexandre, tu veux aussi donner un mot de la fin ?
Je vais continuer sur les remerciements puisque on est dans cette phase-là, mais parce que globalement, je vous remercie vous trois, Julien, Jean-Mathieu, déjà pour votre accueil à l'époque, vos conseils extrêmement bons et votre accompagnement au début de la reprise, enfin même avant votre accompagnement dans mon début de carrière autour de GLPI, ça a été quelque chose d'assez moteur pour moi, que ce soit personnellement ou même professionnellement. Évidemment aussi Walid à l'époque, enfin qui était plus ou moins mon mentor. J'étais vraiment un jeune développeur à l'époque et ça m'a permis aussi de décoller très fortement. En tout cas, merci. Ouais, j'insiste, je vous remercie tous les trois pour ça, du coup, pour le projet, mais aussi pour votre accueil et pour vous-même.
Je vais conclure en faisant moi aussi des remerciements. Quand je suis arrivé sur GLPI, j'avais 29 ans, j'étais totalement immature. Je savais pas du tout comment ça marchait, le logiciel libre. Et vous avez pris le temps nécessaire pour faire en sorte que j'arrive à contribuer et à m'insérer dans le projet. Et c'était vraiment super parce que c'était ce que je voulais, faire du logiciel libre. À travers GLPI, j'ai eu plein d'opportunités, déjà personnelles, puisque finalement, mon meilleur pote, c'est Gonéry, on se voit encore et on se parle encore tous les jours et on s'est rapprochés grâce au projet. J'ai passé des super années avec vous, avec Romy, avec Nelly, avec David, etc. On s'est quand même bien marrés tous. On a eu quand même la chance de vivre des trucs super. Je pense par exemple un fork avec un lancement de projet au FOSDEM. Enfin, des trucs quand même assez incroyables qu'on fait pas tous les jours. C'était super, quoi. Mais vraiment, voilà, moi, je pense que tout le monde se considère un peu comme les mentors des autres. Donc moi, je dirais que voilà, Julien, Jean-Mathieu, j'ai vraiment appris une bonne partie du métier avec eux, quoi. Donc merci beaucoup. Ça me fait vraiment hyper plaisir de voir que GLPI est toujours là aussi et que ça continue. Et c'est un des mots, le mot de la fin que je voulais. Deux mots de la fin. Le premier, c'est que on est dans un monde où il faut tout faire tout de suite et on voit très bien que dans ce cadre-là, les choses elles prennent du temps et que c'est normal et que ça permet de faire correctement les choses. Et la deuxième chose, c'est que je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu et en fait, Il n'y a pas beaucoup de littérature sur une bonne transition de mainteneur. Et pourtant, dans les projets, quand ça marche bien, c'est que souvent, il y a des bonnes transitions de mainteneur. Et là, on en a parlé d'une, demain, on en parlera d'une deuxième. Merci beaucoup à tous les trois. Et pour les auditrices et les auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, dans quelques jours sortira le deuxième épisode. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à les partager sur les réseaux sociaux. Voilà, et à laisser des commentaires sur les plateformes de streaming. Le podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes de streaming, libres ou pas libres. À bientôt pour le deuxième épisode.